Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'intervention poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec au gré des émissions les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Pombredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Gill, Yves Flanck et Philippe Goudard. Bonsoir, cette émission est encore consacrée à Armand Gatti, le poète résistant qu'on a évoqué lors de sa venue il y a 15 jours à Montpellier. Et on l'avait laissé juste à la fin de la guerre, où il commence à pratiquer le journalisme pour gagner sa vie. Il y a une rencontre que je crois qui est très importante aussi, je pense que c'est à cette époque-là, c'est la rencontre d'Henri Michaud, hein, cet autre géant de poésie, et qui dit de Gatti, « Gatti parachutiste mais tombé d'où ?» Et personne ne sait d'où il est tombé, hein, à part enfin, réellement qu'il a été parachutiste dans l'armée gaulliste à la Libération, mais tombé aussi d'une galaxie qui est peuplée de grands résistants aussi, de grands visionnaires, de grands utopistes, hein, puisque peut-être une des particularités de Gatti, c'est de connaître tous les recoins et les plus obscurs et inconnus de l'utopie du XXe siècle, quoi, de tous les gens, que ce soit les anarchistes de Patagonie, que ce soit la Makhnovtchina, le mouvement créé par Nestor Makhno en 1917 en Ukraine, hein, qui se déplaçait sur ces Tachanka, qui étaient des grands chariots sur lesquels les partisans pouvaient parcourir 40, 50, 100 kilomètres en une nuit et attaquer d'un endroit, attaquer à un autre. Et puis, c'est pas seulement une connaissance livresque, c'est pas seulement par ceux du passé qu'il a lu dans les livres, c'est aussi ceux à la rencontre desquels il va aller dans ses enquêtes journalistiques, hein, puisqu'il va rencontrer notamment un personnage qui va beaucoup compter pour lui, Yon Sosa, qui est un guérillero guatémaltèque, puisqu'il va aller à un moment en reportage dans cette guérilla guatémaltèque qui lutte contre la dictature de Arbenz. Et Yon Sosa va lui dire ce mot qui est très important pour lui, l'arme ultime du guérillero, c'est le mot. Et on peut considérer que Armand Gatti est une sorte de guérillero du langage, quoi, hein, un homme qui continue sa traversée, on en reparlera plus tard dans cette émission. Voilà, on va lui redonner la parole avec ce texte, ce très beau texte de La Parole Errante, Main.
Main dans sous le volcan. Ayant tenu le quetzal fabuleux, venu des champs de Miguel Ángel Asturias, la main dans la main de Cipriano Mera, le non-général qui avait gagné la bataille de Guadalajara contre les croisés de la Vierge de Saragosse. Main ayant porté menottes, cabriolets, poussettes, bracelets, manchettes, à chaque époque son élégance. La main dans la main de Michel, la fille du rabbin et son visage souriant de guerriera guatémaltèque, suicidée, juste avant son arrestation. Main tendue en direction des mains du médecin Che Guevara, tranché et enterré dans le plus grand secret pour éviter la contagion de la subversion. Main devenue cerisier lorsqu'elles se sont greffées sur celles de Tomiko, sur la route de la bombe atomique. Depuis, entre Nagasaki et Hiroshima, les buissons sauvages fleurissent, sans arc-en-ciel pour le dire. Main léguée par Bernard Sabie dans l'épaisseur et la concrétude du temps. Non pas ces lignes, passées ou futures, mais les mains modelant une patte invisible et permettant résurgence et continuité inattendue. Mains entre flammes et ombres, déroulant leurs extases incertaines, mains sur la peau d'Ulrich, qu'il fallait, pendant la grève de la faim, séparer avec du papier carbone de ses habits devenus douloureux. En correspondance, ses mains cherchant continuellement la réponse à des mains qui fournissaient la radicalité nécessaire aux itinéraires qui fuyaient les institutions pourvoyeuses de sens et de savoir.
Celui des pierres qui regardent. Les coqs de la Havane chantent la robe de la Vierge poule tout en plumes prélevées dans les fermes collectives. Il, fois je, fois tu, nous, fois il, fois elle, retournent à l'heure des éboueurs pour annoncer le monde nouveau. Les camarades tournent avec des caméras de bois, comme le fusil. Les peintres peignent avec la terre. Le décor, misérable de près, rien que des déchets, merveilleux de loin, la féerie, double appartenance, le ciel et la terre. Nous ne la quittons pas.
Voilà, cet homme du ciel et de la terre, c'est Armand Gatti, le poète Armand Gatti dont on parle ce soir et qu'on a laissé, donc, il y a quelques instants, on parlait de son métier de journaliste, mais on a déjà dit la dernière fois qu'il a fait le serment sur la tombe de son père, l'éboueur Auguste G, qui est mort d'un coup de matraque dans une manifestation, de raconter l'épopée de ses ancêtres, de ses anarchistes italiens, et de donner la place à une autre parole. Et cette parole, il va commencer à la développer à travers le cinéma, d'abord, en réalisant, puisqu'on non pas avec des caméras de bois, mais des vraies caméras. Peut-être a-t-il rêvé de caméras de bois tout d'abord, mais il a réalisé une série de films, dont L'Enclos, le premier film qui est tourné sur les camps de concentration après la guerre, et qui lui vaut une palme d'or à Cannes. Le prix de la critique à Cannes. Mais enfin bon, on peut dire que c'est... voilà, il va tourner. On va pas refaire le Festival de Cannes. On va pas le refaire 60 ans après. Mais en tout cas, voilà. Après, il va tourner donc toute une série de films, dont un aussi qui est, je pense, très marquant, qui est justement El Otro Cristobal, l'autre Cristobal, l'autre Christophe, quoi. Mmh. Hein, donc qui est tourné justement à Cuba. Il va, bon alors c'est long de faire toute sa filmographie ici, ça, mais en tout cas ce qui est important c'est de voir que cet homme est une sorte de démiurge, qu'il touche à tous les types d'expressions, mais que déjà très très tôt le cinéma va lui servir, est un de ses outils pour parler, hein, et ça il va le poursuivre longtemps dans sa vie, hein. Et puis il y a une autre aventure qui commence aussi, c'est celle du théâtre en même temps, hein, puisque je crois que le dernier article qui est écrit Gatti, c'est l'hommage à la mort de Gérard Philippe qu'il écrit dans Paris Match, et à partir de ce moment-là il arrête de faire du journalisme et il commence à être monté au théâtre. Très très vite il devient une sorte d'emblème d'un théâtre politique, hein, on va dire, dans les années 50, et il est monté par les plus grands, c'est-à-dire que Villard lui-même, hein, va l'inviter et monter plusieurs pièces. Voilà, j'ai eu la chance, petit garçon, d'aller voir au TNP, champ public devant deux chaises électriques, et ça commence à être sifflé de l'assistance. Et mais déjà, on anticipe sur un autre micro. On va encore remettre une petite pause musicale avant d'entendre la voix de Dante. Je souhaite à tous ceux qui nous écoutent d'avoir la même énergie et la même flamme que cet homme de 85 ans qui continue à nous dire ses textes. Carla Bley d'abord et Armand Gatti ensuite.
Se sont rêvés la nuit être celle de Léonard de Vinci dessinant le monde Tchétchéri, d'où les hommes devaient s'envoler vers le soleil. Main de l'amour enguirlandé par leur obstination à être serpent à plumes, loup-garou, sirène et même centaure, lorsqu'elles croyaient devoir suivre le destin des constellations. Au bout, Ingrid, l'oiseau blanc de la bohème berlinoise, pendu dans la prison de Munich. Mains qui ont parlé aux chiens, aux chats, aux oiseaux, et même à un certain moment à la lionne et à la panthère tachetée, et qui se perdent dans le dialogue avec les espèces disparues ou qu'on va faire disparaître. Main, comme un théâtre vide, devant Mei Lanfang, peut-être y voyait-il l'histoire qu'il venait de raconter, la neige en été. Main réchauffée au contact des mains de Paddy Doherty, 4000 ans d'histoire barde à elle seule. Énergie en mouvement ininterrompu, onde, nœud en continuelle transformation, réorganisation, composition. Le miracle pour toute l'Irlande que Saint Patrick n'a pas su faire. Main encore pour raconter à Henri Michaud, accoudé au piano pas encore vendu de la rue Séguier. Seules les mains écoutent. On ne voit à la lumière. Le reste d'Henri Michaud ne réagissait que lorsque la musique l'écoutait. La main repliée, poing levé pour saluer. Toute une nuit dans Turin, l'endroit où Nietzsche est devenu fou. La main repliée, le poing levé, pour dire non et en même temps oui au siècle.
Oui au siècle, c'est Armand Gatti qui le dit de sa propre voix dans ce très beau texte « Main ». Un texte extrait de La Parole errante. Alors, pour ceux qui nous écoutent, peut-être on pourrait profiter de faire un très bref rappel bibliographique pour ceux qui ont envie de lire Armand Gatti. Ce texte, on le trouve dans l'anthologie de Poésie à dire, qui est publiée chez Gallimard à la NRF, anthologie qui a été rassemblée par Zeno Bianou. Hein, et puis il y a également un petit texte qui est facile à trouver chez Solipsis, je crois, ou j'ai peur d'écorcher le nom de l'éditeur, mais en tout cas, on le trouve facilement, qui s'appelle De l'anarchie comme battement d'aile.
Hein. Syleps.
Syleps, voilà. Voilà. Merci Mathieu. Syleps, donc, De l'anarchie comme battement d'aile, qui raconte d'ailleurs la saga de la famille Gatti, dont on retrouve une petite trace ici, parce qu'il les appelle non plus Gatti, c'est-à-dire les chats, comme on dit en italien, mais les Uccello, la famille Uccello, les oiseaux. Hein, voilà. Et parmi les plus grands oiseaux, celui qui a rêvé d'en être un, Léonard de Vinci, et évidemment Paolo
Carlo Caffiero, le hein, Monte,
qui était monté au Monte Ceceri et qui d'ailleurs a payé cher, je crois, absolument, son expérience. Voilà. Donc on était en train de parler de l'expérience théâtrale. Yves, tu parlais
de l'expérience cinématographique, mais juste avant son premier film, il a vu sa première pièce montée par Jean Villard. Tu parlais de Gérard Philippe, donc la transition était trouvée, puisque Jean Villard a monté le Crapaud Buffle en 59 au Théâtre Récamier pour inaugurer le Théâtre Récamier. Donc c'est un compagnonnage avec Villard qui a commencé là.
Voilà, et Mathieu disait aussi que pendant toute cette période, il écrit toutes sortes de scénarios qui malheureusement ne voient pas le jour. Mais il écrit énormément, il écrit aussi beaucoup de pièces. Enfin, je me souviens de titres, Un homme seul, qu'est-ce qu'il y avait encore, il va poursuivre ce travail jusqu'en 67 hein, à peu près. Et alors là, il se passe cet événement incroyable. Enfin, d'abord, il écrit V comme Vietnam, je crois, qui est un texte de commande, une pièce sur la guerre du Vietnam. Alors, il faudrait peut-être dire deux mots sur la conception de Gatti du théâtre, qui n'est pas du tout un théâtre psychologique, mais plutôt un théâtre dans lequel plusieurs versions viennent se dire en même temps. C'est quelque chose qu'il a hérité, enfin qu'il a fasciné dans le théâtre chinois, c'est comment chacun vient, en sortant d'une tente, d'une petite tente comme d'un castelet, raconter sa version d'une histoire. Et c'est une chose qu'on retrouve partout dans le théâtre de Gatti, c'est-à-dire par exemple dans la pièce La vie imaginaire de Les Boueurs Auguste G, eh bien il y a, je crois, jusqu'à 5 personnages qui jouent Auguste G, qui sont Auguste G quand il est jeune, Auguste G sur son lit de mort, Auguste G militant, Auguste G tel qu'il aurait rêvé être sur son lit de mort, etc. Donc plein de versions possibles, hein, on peut dire c'est une sorte de théâtre des possibles, voilà. Mais ce théâtre des possibles, eh bien, va se trouver à un moment devant une impossibilité politique, hein, terrible, c'est que donc Gatti d'abord écrit donc Sauvé comme Vietnam, et ensuite une pièce choc qui s'appelle La Passion du général Franco, et qui évidemment est une charge contre le franquisme, hein, puisque lui, il a des attaches très fortes avec les anarchistes espagnols aussi, et De Gaulle va interdire La Passion du général Franco, contre l'avis de Malraux qui va défendre Armand Gatti, hein, mais la décision est là, elle est rare en France, hein, c'est arrivé d'autres fois, mais enfin c'est assez rare qu'on interdise une pièce pour des raisons politiques, et à partir de ce moment-là, il va se passer une bascule très importante, c'est que, bon, d'une part, les portes vont se fermer devant Gatti, enfin les portes, disons, du théâtre officiel vont se fermer, hein, et lui, qui a eu la chance d'être monté par les plus grands, qui a déjà eu sa part, je dirais, de notoriété, de gloire officielle, eh bien, va tout simplement tirer la porte sur cette affaire et continuer son chemin dans une liberté totale d'écriture. Hein, et c'est le chemin qu'il commence et qu'il parcourt depuis maintenant bientôt 50 ans. Voilà. Donc, on va revenir, on parlait de Sacco et Vanzetti, hein, chant public devant de chaises électriques, la complainte des deux émigrants.
Dans le petit salon mortuaire de North End à Boston, deux petits émigrants, engoncés dans leur petit costume droit du dimanche, ont attendu rigide la fin de l'assassinat de l'homme et des étoiles, dans lesquels il vit 100 fois chaque heure de sa vie. L'un était marchand de poissons et l'autre était cordonnier. Les cops des services d'immigration les nommaient Sacco et Vanzetti. Et sur leur feuille de salaire, ils valaient $6.50 par jour. Ils sont partis sans baluchon dans une culasse de grenade, où leurs cendres n'ont pu être démêlées. Ils sont partis à la recherche de travail sur d'autres étoiles, sœurs de celles qui furent électrocutées une nuit de matraque dans le monde, à la prison de Charleston, dans l'état du Massachusetts.
Nous voulions qu'au départ la chanson soit. Les paroles étaient celles de Bartolo Vanzetti durant ses 7 années d'agonie dans le couloir de la mort de la prison de Charlestown, Massachusetts. Un toit pour chaque famille, du pain pour chaque bouche, de l'instruction pour chaque cœur, de la lumière pour chaque intelligence. Et la chanson fut, nous l'avons chantée. Et lorsqu'elle nous est revenue, nous n'avons pas compris ni ce qu'elle voulait dire, ni ce que nous avions chanté. Nous nous étions trompés de siècle. Nous nous étions trompés de paroles. Nous nous étions trompés de personnes. Nous avons dit nous sommes morts. Mais alors pourquoi, étant morts, nous continuons à marcher comme si marcher était le but à atteindre? Nous avons planté notre tente dans la Révolution comme dans un campement de la Croix-Rouge. Au nom de quoi? La radicalité, un certificat de bonne conduite. Le dieu inventeur de Sainte Rita de la Caisse sortait encore vainqueur. Nous avons dit, nous sommes morts. Amis ou ennemis, c'était la même route, les mêmes arbres qu'ils abattaient pour faire du feu. Nous voulions que la chanson soit, en apprenant les paroles, nous avons perdu le sens des mots. Au bord de la route, le gauchisme maigre s'engraissait à régime forcé du mouvement des masses. Nous nous sommes dit, même la marge, nous l'avons quittée. Faut-il rendre le possible possible? Le possible n'a pas de théorie. Le définir, c'est le mettre en prison. L'utopie est soumise à la question et la parole à l'interrogatoire. En état de manque ou d'overdose, la politique et ses mots à ressort de matelas nous conduit toujours au même hôpital psychiatrique. Vieille mais éprouvée seringue pour s'injecter quelques centimètres cubes de communisme, remède de cheval.
Nous ne sommes pas des personnages historiques. On s'est éclaté en Lénine, en Général Blanc, en Makhnovtchina. On a livré les 200 batailles. Celles aussi de la détresse, le soir en rentrant au foyer. On a rêvé de faire un casse avec la tête de Léon Trotsky. Il y en a qui, dans leur seringue, ont mis de la moutarde, ont mis du vinaigre, l'angoisse du siècle et les larmes de Dieu. Nous n'avons pas réussi à être personnages historiques. Il y en a qui ont fait de fausses signatures et de faux calculs, qui se sont rasés en punk, se sont tressés le chignon samouraï, mis l'œil de Caïn comme lorgnon. Nous n'avons pas réussi à être personnages historiques. Cette fois, on s'est dit, avec le cigare, le melon et les ailes d'ange multicolores, comme un film en arc-en-ciel, ça y est, on tient le personnage. Mais l'histoire, c'est pas fait pour nous. Nous ne sommes pas faits pour l'histoire. Alors pourquoi sommes-nous faits?
L'imaginaire. Nous sommes cet enfant du Graf Zeppelin en flamme, sous la nacelle, à 500 mètres du sol, dans le ciel de l'Amérique. Nous sommes cet enfant pourchassé par le feu, dans l'œil d'une caméra. Changement de cadre, changement d'image, on ne saura jamais si l'enfant a sauté dans le vide entre la fin d'une bobine et le départ d'une autre. Un geste en dehors du cadre est un geste qui n'existe pas. Chaque jour, le spectateur qu'est notre solitude retourne au cinéma voir le Zeppelin en flammes, espérant que le film dure quelques instants de plus, et savoir si l'enfant a sauté ou pas, s'il a survécu ou non, si nous avons survécu ou pas. Les enfants de la zone vont au cinéma en groupe. Parmi les 1000 jours de la semaine, le cinéma n'est que le samedi soir. Chaque image portée sur son écran est une fermeture, un arrêt de soi, l'exil des autres, chaussons vos souliers. La salle obscure et ses images sont un endroit où il faut se battre comme avec une bande rivale. Les couples leur demandent le droit d'asile et ne l'obtiennent jamais. D'un masculin à un féminin, tel que les images racontent, les enfants de la zone deviennent une escadre figée dans la glace d'un port dont ils ne parviennent pas à habiter les signes, à enfreindre l'écriture. Le samedi sur image est un oiseau sur une branche en dépit de la route que borde son arbre. Il ne sera jamais le voyage. Le chant de l'oiseau accompagne le chant de l'image engloutie. Chaque foyer allumé dans l'image est un feu de la zone. Il hurle, urgente, la vie, et ne trouve que la répétition qui vole de visage en visage avec toujours les ailes d'emprunt. La guerre de Roger a pris fin sur cette illusion d'un prolongement entre ombre et lumière. Les ombres et les lumières auxquelles il donnait chaque samedi 2 heures de sa vie étaient une guerre civile qui, elle, n'a jamais pris fin, n'a jamais connu l'armistice. Les enfants, enfants de la zone, en sont les squatteurs toujours pourchassés, toujours rejetés à la rue.
cuisine, caisse de cul de chatte, remettant en cause le corps de l'homme dans le paysage. Avec son dos fait de l'usure des villes, ses jambes coupées par la circulation des rues, ses bras de plus en plus allongés pour distribuer, redistribuer le trafic aérien.
Le cinquième sens du mot hérisson. Non pas hérisson, hérisson, mais hérisson. Comme on le voit, c'est l'histoire dont ma serviette et moi sommes les représentants.
Et maintenant, le hérisson, suite. Il est toujours mort.
Sa voix de prophète sur la montagne, dont il ne reste que le lent écoulement des fosses de salubrité. En chaque lieu amputé par tout ce qu'elle fait naître, et dans le regard des yeux remplis de bonheur, car le bonheur est conséquence du progrès, et qui, pour peu que les paupières s'abaissent, découvre les gravats de l'apocalypse. Au-dessus des fumées vers le ciel, pour dire que tous les chemins mènent à cette caisse.
L'arbre a toujours représenté, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, vient d'un milieu paysan. Et déjà, dès le départ, tu avais tous les antagonismes de la Révolution qui se trouvaient, en quelque sorte, mis en évidence dans le discours avec l'arbre. Pourquoi ? Parce que tu avais la Révolution, à l'époque où j'étais enfant, devait se dire par la ville, par l'ouvrier, par le travailleur, etc. C'était fini la campagne. Parce que le communisme tel qu'il a été inventé, Morelli, c'était la campagne, c'était la répartition de la campagne. Et qu'a fait la Révolution lorsqu'elle a entendu Babeuf, qui était l'élève de Morelli, l'élève préféré, l'élève, etc., et qui s'est mis à parler de ce changement qu'il fallait faire, mais à partir de la terre, à partir du travail sur la terre, à partir de c'était ça, le reste, c'était... Et c'était pas sérieux, enfin, c'était... Et disons, qu'a fait la Révolution, lui a coupé la tête. Et cette espèce d'antagonisme s'est toujours retombé. Et moi, je, en allant dans le maquis, je suis tombé en plein dessus. Parce que lorsque moi je suis allé dans le maquis, qui étaient les premiers, c'est-à-dire qui avaient répondu à l'appel du général de Gaulle, c'était les cagoulards. Les partis de gauche, les machins, les ci, les là, hop, ils étaient tous de l'autre côté. Il se pourrait que la révolution se fait dans la ville, se fait en lutte de classe, se fait en, etc. Et donc à ce moment-là, moi, les seuls qui pouvaient, et même m'enrichir, m'apporter quelque chose, m'apporter une méditation. C'était les arbres. C'était lorsque j'allais dans la forêt promener les chiens. Parce que les chiens, alors, multipliaient la forêt avec leur odorat, leur réaction au bruit, leur machin, etc. Il y avait mille choses. Et alors là, il y avait tout un discours, il y avait tout quelque chose qui se faisait, et qui, dans le, a été entièrement coupé dans le maquis, au début. Parce que maintenant, l'histoire de la résistance, c'est quoi l'histoire de la résistance qu'on te fait ?
C'est quoi les histoires de la résistance qu'on nous fait? Cet homme qui parle aux arbres, donc c'est Armand Gatti, donc on a laissé à un moment où il est, disons, l'objet d'une espèce d'arrêt, on va dire un arrêt officiel de mort du côté de la culture, puisqu'il se fait interdire son théâtre. Mais justement, ce dialogue avec les arbres, cette espèce de force qu'il a puisée dans sa jeunesse de paysan, puisqu'il vient de enfin, sa mère, enfin, après Monaco, sa mère va retourner en Italie, à petit village de Pianceretto, qui va être une sorte de base affective très importante pour lui. Eh ben, cet homme va commencer à exercer son immense liberté d'écrivain et de poète à travers une espèce de vagabondage, hein, qui va appeler d'ailleurs lui-même, il va lui donner ce titre merveilleux de La parole errante. Hein. Et ça va commencer d'ailleurs par, je crois, une expérience en Brabant-Wallon, hein, dans lesquels d'ailleurs les jeunes cinéastes qui l'accompagnent, les jeunes caméramans plutôt qui l'accompagnent, ne sont autres que les frères Dardenne, hein, qui sont devenus des gens très célèbres par la suite. Hein, et il va commencer à initier cette espèce de travail très particulier qui est de venir avec un conte, une légende, une idée, un personnage à évoquer dans un milieu, dans une ville ou, je ne sais pas, dans un hôpital psychiatrique, dans une prison, et il va proposer aux gens d'écrire autour de ce thème. Lui-même va écrire sa propre version de l'histoire. Hein, on retrouve là son obsession du théâtre chinois. Chacun sa version. Hein, chacun va donner une version de son histoire. Quels que soient ses moyens, d'ailleurs, hein, il ne demande pas, comme il le dit, si je m'en souviens bien, ne demande pas à une couturière de faire du Brecht. C'est une catastrophe pour Brecht, pour toi et pour la couturière, donne-lui les moyens à elle, enfin, va sur le terrain qui est son langage à elle, et ce qui donne des choses extraordinaires, parce que bon, dans des tournages de films, par exemple, et ben voilà, ben, des couturières vont, je me souviens pour y avoir participé, confectionner la robe de mariée de la jeune fiancée de Roger Rouxel, à qui il s'est adressé, par exemple. Voilà une façon de donner la parole, de l'insérer dans une histoire plus large, en partant des moyens de chacun. Voilà. Et non pas qui est complètement aux antipodes de tout un discours de, on va dire, un peu convenu de culture populaire qui a suivi 68, voilà, où on dit voilà, tout le monde est un grand poète. Non, chacun est un grand poète avec ses moyens, hein, et lui avec celui du langage, quoi. Et donc voilà, ça commence cette immense aventure. D'ailleurs, je laisserai la parole, on va écouter un petit peu de musique, puis après je laisserai la parole à nos amis qui sont venus nous accompagner aujourd'hui, là, qui sont, je le rappelle, Idir Tigilet, Frédéric Darcy et Mathieu Aubert, hein, de parler un petit peu de cette expérience très particulière, puisqu'ils y participent, eux, aujourd'hui, avec Armand Gatti. Voilà, on écoute « Everlast ». We'll be right back.
We kill our moms, kill our brothers and our sisters and our uncles and our aunts. And still I'm fighting with the stone that's in my hand. Stone in my hand. Stone in my hand. Still I'm fighting with the stone that's in my hand. Runs the gutters, smoke fills the sky. Every son that suffers, every mother cries. So if you had enough and are ready for your stand, I'll be waiting with a stone that's in my hand. Stone in my hand, stone in my hand. Yeah, I'll be waiting with a stone that's in my hand. Stone in my hand, stone.
Le 5 qui se répond à lui-même. Nous, dont l'acte de naissance dans les calculs des hommes est le collisionneur, personnage gérant des chambres de Wilson, boîte à bulles, Gargamel des centres de recherche nucléaire. Nous, à qui les grammaires assignent les lieux de nos rencontres, réunis les uns après les autres, nous voici ce langage avec d'une part l'aube ou celui qui va être l'inconnu numéro 5, Cellus et compagnons de cellules. Adieu. Je m'en vais chercher une autre symétrie. Et d'autre part, l'aube, ou Galois inscrit au bas de l'équation du cinquième degré, AX5 plus BX4 plus CX3 plus DX2 plus EX plus F égale 0. Et de ces groupes recompilés pendant toute la nuit. Je n'ai plus le temps. La symétrie expliquera tout ça.
Symétrie. Syllabes et mots lorsqu'ils deviennent oiseaux de Notre-Dame. Symétrie. Chiffres lorsqu'ils prophétisent Ézéchiel en chiffre 5 de la cathédrale d'Amiens. Symétrie. Juste rapport et juste mesure, toujours changeante, dans les mots et leurs agonies qui se répondent dans l'univers. Symétrie. Super trajet pour se démesurer et tracer en même temps les rêves du monde. Symétrie. Prédiscours de la méthode qu'écrivent chaque jour en traces humaines les tisserands sur leurs toiles, les dentelières et leurs broderies. Combinaisons devant lesquelles la géométrie se fane et perd son éclat. Bilatéral à Lagash, il y a 5 millénaires. Aigle à tête de lion, aux ailes étendues, ses serres déchirant 2 serres de profil que dévorent de face 2 lions. La voici, au cours des siècles, rotation. 2 hommes à tête d'aigle autour d'une colonne végétale. Les rapports de leurs bras et de leurs ailes créent l'événement parlant de la diagonale, comme une scène de théâtre, harmonie des différentes parties constitutives avec le tout. Symétrie. Ô symétrie! Sur laquelle est-ce une charnière, est-ce un 5e point cardinal, se détache solidaire comme un point d'interrogation le poteau d'exécution où Albert Lotman et Jean Cavaillès se sont séparés de nos cohérences et de notre façon de regarder le ciel.
L'évidence est là, 1 plus 1 plus 1 égale 3, plus 4 égale 7, moins 5 égale 2, multiplié par 3 égale 6. L'apprentissage de la prison par Roger Enfant, les taches d'encre sur son premier cahier, aucune issue possible. L'évidence est là, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Les voyelles règlent le trafic. À partir des les petits mots, les grands mots, les gros mots ne sont plus criés de derrière les baraques en bois, mais vus malingres, aseptisés, portant déjà toutes les maladies de l'alphabet, les intempés à fauteuil d'invalide et les subjonctifs à cale sont sur leurs traces, grignotant les moments qu'ils s'évertuent à vivre. vie est ainsi faite, les consonnes recrutent, elles savent que les mots sont ajustés pour vivre en caserne.
Après l'expérience théâtrale et l'expérience de la parole errante, depuis environ 10 ans, Armand Gatti traverse les langages, en tout cas écrit un certain nombre de textes autour de la traversée des langages. Alors toujours le mot et puis tous les thèmes qui lui tiennent à cœur. Mais depuis une 20aine d'années, il a rencontré les mathématiques, la physique quantique et avec ces langages qu'il veut désacraliser et qu'il veut rapprocher de toutes ses aventures à partir de la résistance, des camps, etc. Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous dire de la traversée des langages ?
Alors, la traversée des langages, ça commence d'abord par une figure emblématique qui s'appelle Jean Cavaillès, qui est un peu l'initiateur de l'épistémologie en France dans les années 30, et aussi le fondateur d'un réseau de résistance qui s'appelle le réseau Cohor pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Le réseau, pardon ?
Le réseau Cohor. Il était d'ailleurs fusillé à Arras, je ne sais plus à quelle époque d'ailleurs.
43.
Hein.
Gestapo.
Ouais, Gestapo. À Arras, au Pentagone d'Arras. Donc du coup, là-dedans, Gatti, il voit un philosophe, un fondateur d'épistémologie, un mathématicien, un résistant. Donc il s'y retrouve en tant que résistant. Il y voit aussi quelqu'un, un personnage qui développe, qui fait un peu à sa façon la traversée des langages, parce que aussi. Cavaillès est aussi spinoziste. Donc il se porte quelque part en porte-à-faux par rapport à la tradition philosophique occidentale qui est celle du Platon, quoi. Donc peut-être que tu pourrais dire aussi quelque chose là-dessus, Mathieu, sur la traversée des langages à ton tour, quoi.
Oui, il y a à la fois cet aspect Jean Cavaillès, effectivement, ouais. Et puis tout ce que tu commences à nous raconter sur son travail d'épistémologue, sur les mathématiques, son originalité dans la philosophie occidentale. Il s'oppose à ses professeurs, il étudie beaucoup en Allemagne, dans les universités, ouais. Il y voit la montée du nazisme, il est protestant, mais il hésite lui aussi à un moment donné à prendre sa carte au Parti communiste, il ne le fera pas, mais... En tout cas, il est vraiment observateur de tout ce qui se passe, et le fait qu'un intellectuel comme lui rentre dans la résistance, c'est pas beaucoup vu, quoi. Et ça va être le personnage emblématique, le personnage ulysséen, homérique de la traversée des langages. Toutes les pièces partent de lui et reviennent à lui. Et c'est pour Gatti quelque chose, un résistant qui lui aussi fait cette traversée dans le XXe siècle. Et il y a un autre aspect que Gatti, du coup, va pêcher, qui est la physique quantique, à laquelle Jean Cavaillès n'est pas un inconnu. Et cette physique quantique qui émerge dans les années 20, qui va permettre ensuite, par son développement, des choses plus glorieuses, comme la réalisation de la bombe atomique, hein, n'est-ce pas ? Mais néanmoins, toute cette formidable connaissance nouvelle de la matière et ses applications qu'on ne connaît peu, récupérées par les militaires, néanmoins, dans la philosophie, en revanche, c'est un tout autre chemin qui est vraiment celui d'un bouleversement total des connaissances. La matière existe-t-elle ? Quel est vraiment le point de vue ? Tout ce que les scientifiques pensaient avoir de tangible dans leur pratique s'effondre. Et c'est ça que Don Gatti va saisir et essayer de l'appliquer, nous, dans notre quotidienneté, par rapport à notre usage de la langue et la manière dont la poésie peut aussi se saisir de toutes ces avancées.
Oui, ce qui l'intéresse beaucoup, je crois, dans la physique quantique, c'est finalement le langage probabiliste, c'est-à-dire qu'à un certain moment, les physiciens découvrent que rien n'est pratique, enfin, c'est pas la rationalité qui guide l'observation des phénomènes, mais les probabilités, c'est-à-dire qu'un événement a des chances de se produire ou pas. Et je pense que Gatti va se saisir de cet aspect probabiliste pour en faire un des langages poétiques qu'il va sublimer dans l'ensemble de ses textes. Alors, au croisement aussi, il rencontre la Kabbale, les écritures du judaïsme.
Dire, voilà que la Kabbale, c'est aussi une étude des possibles, hein, ouais. Puisque la langue hébraïque par elle-même, puisqu'elle n'a pas de voyelles, elle n'a que des consonnes, elle offre à chaque lecture d'un texte de la Bible un nombre de possibles illimités. Et c'est ce que font les kabbalistes, c'est-à-dire de voir comment on peut lire un texte, quoi, puisque par exemple, petite équivaut à patate, par exemple. Voilà, enfin, c'est un exemple très prosaïque pour essayer de faire comprendre comment marche la langue hébraïque, l'ancien hébreu. Donc je pense que ça rejoint aussi cette espèce de kaléidoscope immense que représente le langage dans toutes ses virtualités, quoi, on va dire.
Mm-hmm. Ouais. Et c'est à partir un peu de ce principe que les choses ne sont pas données une fois pour toutes, que on souhaite inaugurer un travail théâtral sur la traversée des langages ici à Montpellier. Un atelier où on va autant partir dans les voies des improvisations théâtrales, d'un travail choral en musique, en peinture, en écriture, etc. Avec, sans pour autant se donner les objectifs d'élaborer un spectacle, mais de parcourir tout le travail qu'on peut réaliser avec les stagiaires, c'est notre priorité.
Voilà, alors donc pour ceux qui nous écoutent, il faut dire vous c'est Les Bons Camarades, qui êtes cette compagnie de théâtre qui est depuis peu installée ici et qui menait qui allait mener ce projet ici à Montpellier, je crois à partir de janvier-février, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Voilà, ok, comme ça on les a identifiés. On va peut-être demander à Gabriel qui nous suit depuis le début et qu'on n'a pas remercié à l'émission précédente, de nous préparer un petit bout une petite pause musicale et avant de finir en beauté sur la lecture des paradoxes de Dante Sauveur Gatti, dit Armand Gatti.
Paradoxe de l'homme, le sourire lorsqu'il devient pensée et la pensée construction des villes de la fraternité. Paradoxe du prolétaire, penser comme celui qui l'exploite. Paradoxe du rythme, être l'utopie du sens. Paradoxe de la psychologie, faire du quantitatif, du qualitatif et de l'idée de Dieu un système bancaire. Paradoxe EPR, Einstein et ses mathématiciens, ou le romantisme au banc d'essai. Paradoxe en lui-même, celui de l'oxymoron, alliance de deux mots de sens incompatibles, une douce violence, une obscure clarté, une ignorance encyclopédique. Paradoxe du coureur à pied ou de la dichotomie. Parcourir une distance donnée nécessite en franchir la moitié, puis le quart, puis le huitième, puis le seizième. À chaque progression, une longueur à parcourir qui ne s'annule jamais, donc le mouvement n'existe pas.
Paradoxe du démon de Maxwell, où les concepts disparates d'information et d'entropie sont en fait intimement liés. La dualité onde-corpuscule, telle que nous la présentons, ou la métaphysique des apparences. Le paradoxe de Langevin, ou le temps des voyages. Le paradoxe d'Olbers, ou le voyage au bout de la nuit. Le paradoxe du rayonnement fossile qui s'interroge. S'il était dès l'origine homogène et l'expansion qui en a suivi parfaitement symétrique, comment les galaxies ont-elles pu se former? Le paradoxe du chat de Schrödinger ou les aléas de la mise en boîte.
Le théorème de Gödel, où la mathématique se nourrit d'arbitraire et où de grands pavés de logique rigide flottent sur la mer de notre libre choix. Paradoxe de l'amiral et d'Épiménide, le Crétois, lorsqu'il dit « Tous les Crétois sont des menteurs », ce qui implique qu'Épiménide est un menteur et ce qu'il dit est un mensonge. Du coup, les Crétois disent toujours la vérité, donc Épiménide dit vrai, et ce sont les Crétois qui sont des menteurs. Les paradoxes font de la science un lieu vivant et non un lieu trône prononçant des sentences définitives. En lui rencontre émergence et hymne à la polyvalence. Le paradoxe de la violation de la parité ou le faible éloge de la différence. Paradoxe de Hegel, où la rationalité engendre des irrationalités et se bâtit sur elles. Paradoxe de notre époque. Tout le monde ne vit pas dans le même monde. La science y devient la croyance dans l'ignorance des experts.
Le paradoxe de la flèche du temps ou le sens de l'histoire. Comme au fronton du Panthéon, au grand paradoxe, la pensée reconnaissante. Nous devons faire avec les paradoxes des langages possibilistes à la manière de la chimie lorsqu'elle devient le miroir des mots de la théorie quantique et éclaire chaque signe de notre traversée des langages et aussi chaque fait expérimental nouveau, ces aspects incompréhensibles liés à la matière. De quel navire fantôme alimenter cette traversée des langages? Ceux de l'invention à la recherche de ces mots et de ces chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent autant d'oiseaux en état de vol, postés depuis 3000 ans devant les écrits de la nuit.
Le contre-opéra. Supprimer l'uniforme, et non l'individu qui est derrière. C'était l'époque des illusions trop grandes et de l'homme muet devant la caméra à manivelle. Liquider l'homme, non le soldat qui est devant. Le soldat, on peut le récupérer pour n'importe quel crématoire, à remplir selon la norme. C'est l'empoignade des ombres et des lumières d'aujourd'hui, lorsqu'elles sont personnages. Tuer le rêve, non le rêveur. La contestation, non le contestataire. La religion, non le croyant. Tuer le réel, non son image. Notre guerre civile commence là.
Ferme l'œil un moment, ferme l'oreille au vacarme du temps. Tu ne guéris ce mal, ni te sauve. Si ton cœur tout entier ne se donne à toi de préserver, d'espérer, de voir dans le jour l'éternité. Tu es déjà dans le destin du monde, si prisonnier et si libre. L'heure vient où l'on t'appelle. Sois prêt alors, absolument, et dans le feu qui palpite, lance-toi comme une dernière bûche.
Ainsi s'achève cette émission, cette deuxième et dernière émission consacrée à Armand Gatti, le poète résistant. Cette émission de la BIF, vous la retrouverez tous les mardis, le premier mardi et le troisième mardi de chaque mois, de 20h à 21h. Vous pouvez inviter la BIF sur vos lieux de travail, de paresse et de loisirs pour venir dire les textes de la poésie vivante. Une dernière fois, nous laissons la place à Armand Gatti, dit par Idir Tigilet.
Notre guerre civile n'a plus de palais d'hiver à prendre, n'a plus de poste dublinoise où pouvoir résister. Plus de but où abandonner ses canons, plus de banque de France à investir, plus de majuscules devant qui mourir, plus de points cardinaux en sécession qui nord ou sud s'affrontent. Conflit de volume, de direction graphique, d'angles à opposer. Conflit de profondeur, de masse, de couleur, d'intensité de couleur, de lumière, de spectre, d'arc-en-terre. Conflit entre un objet et ses dimensions, entre un événement et sa durée. Notre guerre civile recommence chaque jour le combat de l'échelle contre le ciel.
Sous les pavés, la plage est une phrase d'Armand Gatti.